RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de Villepillière, associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux, bonjour messieurs.
Bonjour Alain.
Je vous donne le plaisir d'accueillir Mathieu de Benast, qui est le PDG de la financière de Courcelles. Bonjour Mathieu.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes né en 1975 à Sainte-Adresse, qui, comme tout le monde le sait, était capitale de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Une formation en maths physique. Et puis après un diplôme de Subdoco Montpellier. Et vous avez passé 2 années au Burkina Faso. Vous faisiez quoi là-bas ?
Eh ben, j'ai travaillé, je voulais absolument partir en coopération en fin d'études. Et mon rêve, c'était de partir en Afrique. Et donc, il y avait 2 entreprises qui recrutaient à l'époque en Afrique. Il y avait Total, mais qui ne recrutait que des ingénieurs. Et une autre entreprise qui faisait du déménagement international. Et donc, je suis parti faire du déménagement dans des entreprises. Une belle ETI d'ailleurs, qui est un des leaders mondiaux encore aujourd'hui. Et je suis parti 2 ans au Burkina Faso. Je ne savais pas où était le Burkina, mais voilà, ça a été le début de ma carrière.
Bon, alors ensuite, 7-8 ans chez AGS et puis 13 ans au sein du groupe Atalian. Vous avez connu différents jobs chez Atalian ?
Oui, alors je suis rentré parce que chez AGS, j'avais fait de l'international. Donc c'était le point commun avec la suite. Et donc je suis rentré dans une entreprise qui voulait se développer à l'international. Et c'est ce que j'ai fait comme patron de l'international. Puis j'ai terminé comme CEO du groupe.
Et là, au total, c'était 13 années, c'est ça ?
Voilà, 13 années dans ce groupe-là.
Alors, vous avez racheté la financière de Courcelles, c'était en 2020, donc très récemment. Vous avez toujours voulu passer de l'autre côté de la barrière en devenant entrepreneur ?
Je pense que je n'étais pas prêt à devenir entrepreneur. Je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs, mais j'ai appris parce que j'ai côtoyé des entrepreneurs pendant près de 20 ans. Et je pense qu'il était temps pour moi, en tout cas je me sentais prêt pour reprendre et diriger une entreprise moi-même.
Et là, 2 ans après, là tout va bien, toujours motivé ?
Bah écoutez, l'enthousiasme est toujours là et ça y est, ça se développe. Donc malgré cette crise, on est en pleine croissance et on embauche pas mal. Donc oui, le projet me va totalement.
Bon, alors dites-nous justement, cette financière de Courcelles, le nom est très joli, l'histoire débute en 1928 ?
Oui, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame qui est née en 1928, qui a été détenue par des familles. La Générale est même rentrée au capital dans les années 70.
La Société Générale.
La Société Générale, pardon. Et effectivement, elle est rentrée au capital, mais elle a toujours été détenue par des entrepreneurs. Et une famille l'a encore détenue pendant les 10 dernières années. Et j'ai pris le relais. Donc je reprends la financière de Courcelles.
Le bénéfice et le poids de l'histoire, quand même.
Voilà, exactement. Et donc, j'ai aussi le poids de continuer la vie de cette entreprise qui est bientôt centenaire.
Alors, les métiers, on vient voir pourquoi ?
Alors en fait, historiquement, elle a toujours été dédiée justement aux PME et ETI. Donc c'est vraiment sur des métiers de cession, de levée de fonds ou de rachat d'entreprise. Voilà. Et moi, j'ai un peu augmenté et c'était mon expérience plus opérationnelle dans le passé, dans un concept qu'on appelle l'augmenti des menées, qui consiste à travailler en amont et en aval aussi des opérations, soit d'achat, soit de cession.
D'accord. Arnaud ?
Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Oui, chez Généo, on connaît bien la financière de Courcelles, on vous aime bien. Vous faites un très beau métier. Est-ce que vous nous raconteriez votre plus beau succès ou un succès récent dont vous êtes particulièrement fier ?
Et avouable en plus. Hein. Il y a quand même un côté
tant qu'à faire. Oui, oui. Écoutez, il y a 2 ans, quand le projet de la financière de Courcelles a commencé, on a accompagné une grosse ETI qui venait de lever des fonds et qui voulait se développer à l'international. Donc on a travaillé avec ce groupe, je peux le citer, c'est le groupe TSG, qui avait un enjeu majeur, ce qui était de diversifier ses activités, puisqu'il était plutôt dans le oil and gas, sur la maintenance des stations-service. Il avait besoin de se développer sur l'électrique, et surtout de se développer à l'international. Et là, on a effectivement, depuis maintenant 2 ans, tissé notre réseau et avec l'expérience qu'on avait aussi dans le passé. Et on en a notre 6e opération de croissance externe en Allemagne, en Belgique, en Croatie, en Angleterre. Donc des opérations qui se consolident pour un groupe comme celui-là. Donc on est vraiment exactement dans le concept de ce qu'on fait, c'est-à-dire accompagner des entreprises dans leur développement international. Et on les aide vraiment à les aider avec la culture aussi dans chaque pays, à ne pas produire certaines erreurs. Voilà. Et Arnaud. Donc, on arrive à sourcer un certain nombre d'entreprises pour TSG et ça marche plutôt bien.
Justement, Arnaud. À l'international, le M&A, globalement, c'est un métier de relation. À l'international, comment on maintient justement cette confiance et ce réseau ? Quelles sont les clés ?
Alors, c'est pas, ça s'entretient avec tout un écosystème, en fait, qu'il faut entretenir. C'est à la fois des avocats, des experts comptables, des sociétés de M&A et des gens qu'on a pu connaître aussi dans l'environnement.
Qui vous avez un réseau, Mathieu, c'est ça ?
Alors, on a nous, financiers de conseil, on est à l'origine, on a créé un réseau dans une trentaine de pays. C'était une dizaine d'années avant mon arrivée. Et ce réseau, on s'appuie dessus. Effectivement, dans certains pays, il y a des sociétés comme la financière de Courcelles qui aident à sourcer des entreprises et qui aident à trouver justement des cibles qui pourraient correspondre. Donc oui, on s'appuie sur ce réseau, mais pas que. Tout l'écosystème que je décrivais.
Antoine.
Bonjour. Ma première question, alors, elle est très liée à l'actualité, puisqu'il y a une frénésie médiatique sur les fameuses licornes, ces startups qui sont valorisées...
Très cher alors que le chiffre d'affaires est tout
inédits,
petit.
À des niveaux inédits. Quelle est votre vision de ces sociétés, du rôle des investisseurs et des conseils dans le développement de sociétés et comment vous mettriez ça en relation avec les ETI? Parce que souvent, on en parlait, il y a un réseau d'ETI très fort en France qui est solide, qui est du tissu industriel. Et puis, on a ces fabuleuses comètes qui vont peut-être se développer énormément. Mais quelle est votre vision là-dessus?
Alors, nous, on n'est pas trop focalisé justement sur les licornes, mais plutôt sur les ETI. Donc, on est moins spécialisé sur ce type. Moi, je trouve que les ETI, d'ailleurs, sont plutôt sur des métiers plus traditionnels en général. Donc, moi, je crois plus à des métiers traditionnels. En tout cas, j'ai plus d'expérience avec ce monde-là. C'est vrai que quand on regarde les valorisations qui partent très fort alors que les entreprises sont pas rentables, ouais. On est dans un autre monde.
Et souvent, il y a des tout petits chiffres d'affaires. En plus.
Et avec des tout petits chiffres d'affaires. Et donc, ce sont des fonds de venture qui sont souvent intéressés par ce concept-là. Moi, je pense qu'il y aura des corrections un jour et qu'on peut pas tenir des valorisations à ces chiffres. Je pense que le monde anglo-saxon guide aussi ces valorisations. Voilà, donc on est sur une embellie sur tous les multiples. Je pense que les entreprises qui arrivent à se digitaliser, elles arrivent aussi. Je pense que les licornes ont un bel avenir parce que c'est une poussée, mais il faut faire attention aux effets de mode.
Mmh. Antoine ?
Oui, une deuxième question. Je voudrais revenir sur votre concept de M&A augmenté. Vous avez parlé d'amont et d'aval. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu en quoi ça diffère, on va dire, des métiers de fusion-acquisition traditionnels ?
En fait, si on prend, par exemple, les entreprises qui veulent faire de la croissance externe, très souvent, elles oublient un certain nombre de phases. L'opération de M&A n'est qu'une étape quand on rachète une entreprise. Et très souvent, on oublie de se poser la question, c'est est-ce qu'on est prêt à racheter une entreprise ? Mmh. Est-ce qu'on a l'équipe pour le faire ? Et ça, souvent, ce sont des questions qui sont oubliées. Donc en amont, il y a un certain nombre de choses à prévoir. Le financement, est-ce qu'on a le bon mode de financement ? Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour financer une entreprise. Est-ce qu'on a bien évalué la structure pour pouvoir faire le financement ? Donc ça, c'est des questions très en amont. Et une des erreurs aussi est souvent l'intégration des entreprises. En général, quand on interroge des gens qui ont des entreprises qui ont acheté des groupes ou des entrepreneurs, deux fois sur trois, on explique que souvent on est déçu. Et on est déçu parce que souvent l'intégration a été mal faite. C'est pas qu'elle a été mal achetée, c'est qu'elle a été mal faite. Et pour progresser là-dessus, c'est là-dessus où nous, on travaille avec les chefs d'entreprise, c'est de dire, voilà, il faut préparer un plan. Et un plan, ça se prépare pendant le process de M&A. Et un plan, c'est comment on fait pour incentiver les gens qu'on va racheter. Et c'est aussi trouver, faire le plan d'intégration pour bien intégrer l'entreprise. C'est pas que des questions de coûts, c'est des questions d'âme aussi souvent. Et ça, c'est souvent mal préparé. Donc, il y a un amont, il y a un aval. Et de la même manière, pour des gens qui veulent céder leur entreprise, elle est souvent pas toujours prête. Mmh. C'est-à-dire que souvent, la partie financière n'est pas toujours très carrée. Et donc, il y a du travail à faire en amont de la cession. Donc, nous, on accompagne très en amont des entreprises qui ont le projet de vendre. Mais souvent, il y a une période de 6 mois, de 1 an pour se préparer à cette vente. Et plutôt que d'arriver sur un process M&A ou tout de suite vendre, alors que l'entreprise n'est pas prête et donc pas optimisée, Il vaut mieux prendre son temps.
Et puis, il y a le dirigeant aussi à convaincre. Parce que parfois, il est prêt, il n'est pas prêt 6 mois après, il n'est pas prêt 3 mois après. Enfin, c'est pas facile, la gestion et le management d'un vendeur potentiel, non ?
C'est très compliqué parce que, effectivement, c'est l'opération d'une vie souvent.
Oui.
Et puis il y a des choix à faire. Est-ce que dans les entreprises familiales en particulier, est-ce que les enfants peuvent reprendre ou pas ? Si un concurrent vient vous acheter, c'est toujours celui qui est en face, ça peut être aussi très frustrant. Après, il y a des contextes de valorisation. Et puis, qu'est-ce qui est le meilleur pour son entreprise pour la suite ?
Ça pose plein de questions, en tout
cas. Ça pose plein de questions. Et je pense qu'effectivement, il faut encadrer et aider les dirigeants dans cette phase-là.
Et Mathieu, selon vous, quels sont les leviers activés pour aider les entreprises pour passer du stade de PME à ETI, puis ensuite à grand groupe ?
Je pense que justement, la croissance externe, les acquisitions, c'est un bon levier. Parce qu'effectivement, la croissance organique dans beaucoup de secteurs, c'est compliqué. et que la croissance externe est un bon relais pour prendre une autre dimension.
Vous prêchez quand même bien pour votre paroisse, Mathieu. Hein.
Oui, mais je pense que c'est la réalité aujourd'hui, c'est que la création de valeur et tout va avec, l'attraction de talents, l'attraction des fonds aussi, des financements.
Ça permet d'aller plus vite.
Il faut un effet taille pour rentrer dans cette cour des ETI.
Mathieu, vous adorez le bon vin. Quelles sont vos régions favorites ou alors domaine coup de cœur?
Alors, j'aime bien un vin qui a beaucoup, qui fait maintenant, qui est très connu, mais qui est Lagrange des Pères.
Dans le Languedoc.
Oui, qui est un petit vignoble, mais qui est excellent.
Et vous le connaissez depuis longtemps ou pas?
Oui, ça fait une vingtaine d'années.
Ah oui, 20 ans, donc c'est précurseur.
Je préfère le rouge d'ailleurs que le blanc, mais les deux sont très bons.
Et alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation du poisson au barbecue. Alors, comment vous le préparez et quel type de poisson?
En fait, c'est la seule chose que je sache faire en cuisine, c'est ça. Mais effectivement, j'ai une recette qui est impeccable, c'est que vous mettez dans du papier d'aluminium votre poisson sur un barbecue, vous êtes sûr de ne pas rater la cuisson. Je vous ai donné un petit secret.
C'est QFD, quoi. Et votre meilleur poisson, c'est lequel?
J'aime bien le bar, mais j'aime bien toutes sortes de poissons.
Et alors, pour digérer, votre meilleur temps au semi-marathon, c'était combien?
1,42, mais j'avais quelques kilos en moins, quand même.
Et puis, Paris-Honfleur à vélo, c'est sympa?
À tous les ans. Ça, je le fais tous les ans. Et ça prend du temps, mais je fais une petite halte gastro.
Mais entre potes ou alors organisé?
Entre potes, on fait ça. On est 5-6, ça augmente chaque année. Donc c'est 166 km pour aller à Rouen, c'est une première étape.
Ouais.
Et là, petit restant gastro, le lendemain c'est plus difficile au réveil, mais il reste 100 km pour aller jusqu'à Honfleur. Ouais.
Et le retour c'est en train ou voiture?
Le retour c'est en train, oui.
Bon, et pour terminer, vous soutenez, vous à titre personnel ou via l'entreprise, des causes caritatives ou humanitaires? Dites-nous, Mathieu.
Oui, alors, depuis deux ans, on a fait pas mal de projets financiers, mais il y en a un qu'on est en train de lancer d'ailleurs, qui est important aussi pour nos collaborateurs, pour les garder dans un projet de vie. Il n'y a pas que le salaire, même dans ces métiers de la finance. Et donc, effectivement, on a lancé un certain nombre d'initiatives. Une association qui s'appelle Demain.org, qui en fait aide à coacher des gens qui ont des difficultés pour entrer dans le monde de l'entreprise. Donc, on a lancé cette initiative avec quelques collaborateurs et on va la généraliser au sein de l'entreprise.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci également à vous, Arnaud et Antoine. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.